Bien, ça fait un beau programme à 6 points, ou 5, puisque Anne Berquin a repris un point à Jean-Noël Godin. Donc un programme à 5 points qu'on va essayer de transmettre au ministre Van den Broek. On espère qu'il regardera la rediffusion du débat. Et puis maintenant, je vous passe la parole et très concrètement, je passerai le micro dans la salle.
Voilà, merci pour le débat. Je suis moi-même généraliste de terrain jusqu'au cou. J'aimerais bien être payée à l'heure, personnellement. Pour le moment, c'est 11-12 heures par jour, sauf aujourd'hui. Mais je crois que mes confrères, ils ne sont pas d'accord, parce qu'en effet, il faut être clair, les généralistes, beaucoup sont plutôt plus de droite et donc libérales. Et voilà, je pense qu'on n'est pas prêt de changer ça, mais il faut, si on veut bien travailler, vous avez donné l'exemple du mal de dos, une consultation, on prend le temps d'examiner, de démontrer qu'il n'y a pas de truc grave, d'expliquer, de rassurer, de refuser une radio, ça prend un temps fou. Une consultation, on dit « Ah, j'ai un mal de dos, on va faire une radio », ça prend 5 minutes. Et ça, c'est capital. Et je suis aussi maître de stage, donc je vois des jeunes. Et ça ne passe pas encore dans l'enseignement. Donc je crois que là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Alors si j'étais ministre de la Santé, moi je ferais d'abord attention à ce que les enfants bougent, mangent bien, que les gens ne deviennent pas obèses, pas diabétiques et pas cardiaques. Parce que le problème de santé, d'abord, il est là. Je pense qu'on a démontré que les gens vivent maintenant moins longtemps en bonne santé. Et donc, avant de faire de la médecine, même médecine générale, c'est d'abord dans les écoles, c'est l'éducation, c'est l'alimentation, c'est la communication, c'est tout ça qu'il faut faire. Et ça donnera déjà moins de travail au boulot, aux médecins. Et je veux faire juste une remarque par rapport à la phytothérapie et tous ces trucs-là. Je dis ces trucs-là parce que ça me pose vraiment problème. C'est une industrie comme une autre. Elle n'est pas meilleure que celle des médicaments. C'est du business, ces gens-là font du business comme les autres. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est pas remboursé par la mutuelle. Et en plus, je ne sais pas ce que vaut le contrôle des médicaments, mais voilà, je siège au conseil médical de l'ONE et on a des plaintes là sur la vitamine D, qui est la décure, qui est le seul médicament. Et à côté de ça, on a une panoplie de vitamine D, bio, machin chouette. Et là, il n'y a pas de contrôle. Et donc, ça me pose problème. Et donc, par rapport à toute la médecine alternative, j'ai des craintes d'un manque de contrôle et donc de fiabilité. Voilà.
Alors, il n'y avait pas tout à fait une question, mais merci beaucoup pour vos réflexions. Je ne sais pas si vous voulez déjà réagir. Je vais prendre les autres questions juste après.
Juste dire que je suis bien d'accord sur le fait qu'il faut vérifier d'abord ce qu'on vend, mais surtout l'efficacité. Donc, quand j'ai cité la phytothérapie, c'était comme alternative au pharmapétrole, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Je suis aussi profondément convaincue de l'importance de tester ce que nous faisons, parce que ça, c'est une question d'honnêteté intellectuelle de base. Et de aussi, avant tout, ne pas nuire.
Et on peut aussi introduire dans la réflexion l'homéopathie, c'est vraiment, c'est l'exemple type d'une production industrielle qui n'a absolument aucun bénéfice sur la santé publique et qui, elle, génère un coût et un impact carbone absolument délirant par rapport à ce qu'elle apporte au niveau de la santé.
Voilà, il y a une question ici.
Merci. Moi, je suis le docteur Grimaldi, je suis intensiviste à l'hôpital Heras, donc dans le modèle biotechnique à 200%, mais je vous rejoins largement sur tout ce qui ne relève pas de mes compétences. J'avais juste un petit commentaire à faire sur les émissions carbone du secteur de santé, parce que les chiffres sont peut-être un peu sous-estimés. Et le rapport du Shift Project en France, qui est sorti cet automne, les estime à 8% pour un PIB à 11,3%, donc le découplage n'est pas si important. Et peut-être dire à Monsieur Pearl qu'en fait tout ce qui est émis va rester dans l'atmosphère, ça, donc un problème de flux en fait. Donc même si on n'est pas l'industrie pétrolière, il faut certainement réduire ces flux-là. Et la question précise, c'est par rapport à votre question à vous sur le réchauffement, est-il un problème de santé publique? Peut-être pas en termes sanitaires stricts, mais comment vous voyez la place du système de santé en cas de catastrophe sociale liée au règlement climatique, migration massive ou autre. Merci.
Oui, j'ai lu aussi ce rapport du Shift Project. Oui, oui, tout à fait. C'était un peu, provoquant ce que je disais. Je veux surtout pas commencer à dire que le système de santé ne doit pas s'interroger, c'est que la santé ne doit pas s'interroger sur ses propres émissions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans le gaspillage de petits dispositifs médicaux, de matériel médical, etc. Il y a un effort énorme à faire. Mais bon, voilà, par rapport à l'ensemble de l'écosystème de la santé, c'est pas ça qui va nous faire sortir des prévisions du GIEC. Hein. Donc voilà. Mais la réflexion, elle est, comme je disais, beaucoup plus en amont sur la prévention des crises. Et les crises que vous dites, c'est des crises migratoires, est assez typique. Enfin, des crises migratoires qui sont notamment liées par le réchauffement climatique. C'est que le réchauffement climatique est susceptible de faire peser, à la fois en termes de migration, mais aussi en termes de problèmes endogènes, parce qu'il faut pas, on a un peu tendance à considérer que le réchauffement climatique, c'est un problème pour les pays du Sud, mais ça va l'être de plus en plus pour les pays européens. Les zones d'endémie de certaines pathologies, enfin déjà, on voit l'extension des zones d'endémie de certains animaux qui vont probablement se coupler avec l'augmentation des zones, enfin l'extension des zones d'endémie de certaines maladies. Alors on n'a pas encore la malaria en Europe, mais c'est pas un scénario qui est complètement insensé. Par exemple, c'est peut-être un scénario à 20 ou 30 ans, peut-être un peu plus, mais qui est pas inni. Donc oui, et je crois que ce qu'on vit pour l'instant montre que ce qu'on imagine comme scénario catastrophe à 40 ou 50 ans, si on les pense pas maintenant, on va se les prendre en pleine figure, comme on se prend la crise du Covid pour l'instant. C'est ça qu'il y a. C'est que on a une gestion à la petite semaine où l'horizon politique, y compris en matière de santé, est un horizon à 4 ou 5 ans. Or, la pandémie qu'on vit maintenant était probablement prévisible déjà à 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que tous les éléments susceptibles, tous les éléments constitutifs de la pandémie étaient présents. Quelle que soit la cause, hein, donc il y a la cause. Je ne sais pas si on aura un jour le fin mot de l'histoire. Est-ce un accident de laboratoire ou est-ce une cause animale propre et de transmissibilité directe de l'animal vers l'homme. Toujours est-il que ce qui s'est passé dans les deux cas de figure, c'était hautement prévisible et hautement préventable. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait un véritable besoin, probablement, d'anticipation qui n'a pas eu lieu. Donc quand on dit peut-être que dans 40 ou 50 ans, la malaria pourrait revenir en Europe ou d'autres maladies de type tropical pourraient venir dans le sud de l'Europe, ben, si on ne le prévoit pas et si on n'anticipe pas maintenant, les conséquences seront dramatiques dans 40 ou 50 ans.
Je prends la question suivante.
Merci. Moi, je voudrais revenir à la question initiale et peut-être signaler quelque chose et puis amener une question. Donc, c'est de dire que la DG Environnement, à l'échelle fédérale, en fait, elle est abritée au SPF Santé publique. Et le SPF Santé publique a comme devise, enfin, le mot, je ne trouve pas le mot exact, mais le principe du One Health, du One World. Et donc, le fait de considérer, et là, je rentre plus dans l'appréhension d'une politique de santé publique, l'idée selon laquelle il n'y a qu'une seule santé et que la santé humaine et la santé environnementale de notre planète relèvent des mêmes déterminants et dès lors doivent faire l'objet, appréhender la santé publique doit se faire spontanément, comme vous le disiez, M. Parle, avec la dimension environnementale. Et ça, c'était totalement absent de la réflexion ici, donc je voulais vous entendre là-dessus. Et alors, un deuxième élément pour continuer à taper sur les lobbies et compagnie, hein, parce que ça fait toujours plaisir, c'est facile. Mais plus sérieusement, nous avons eu des témoignages d'une société, des délégués commerciaux qui vendent des produits dans les hôpitaux et qui témoignent et qui nous disent... Alors là, j'arrive sur un autre élément, c'est sur les enjeux d'économie circulaire et de surconsommation, etc., où ils disent, par exemple, dans les blocs opératoires, là où pendant des années, on fonctionnait avec des instruments qu'on stérilisait en fin de journée et qu'on réutilisait, les firmes commerciales ont réussi à créer un besoin. Alors, effectivement, la crise du Covid, c'est pas le moment pour sortir avec ça, hein, puisque le principe du précaution est là, mais ils nous disent, voilà, aujourd'hui, on vend des milliers de petits éléments qu'on doit changer après chaque opération, etc., en caoutchouc, en plastique, etc., etc., avec tout ce que ça suscite comme déchets, comme production, etc., alors que il y a encore juste 10 ans, certains instruments dans les blocs hospitaliers, fin de journée, étaient stérilisés. Et donc là aussi, on crée, je ne sais plus, l'un de vous l'avait dit, je pense que c'est vous qui le disiez, François, on crée des besoins, et alors effectivement, comme on est dans le domaine du médical, personne n'osera jamais dire il faut pas changer d'embout après chaque opération, quoi. Je veux dire, le premier qui dit ça, le principe de précaution est tel, voilà. Donc il y a aussi cet enjeu-là de comment réintégrer là, cet enjeu de la circularité, de certains besoins qui ont été créés à partir d'un commerce.
Qui... Peut-être Anne ?
À propos de la deuxième question, en tout cas, j'ai lu un article assez intéressant d'un anthropologue qui analysait cette question-là et qui montrait à quel point, au départ, en fait, les plastiques dans les soins de santé, c'était par confort d'utilisation. C'est parce que ça ne cassait pas. Et que donc c'était plus confortable à manipuler, que ça avait moins de risques pour le patient éventuellement, mais surtout moins de douleurs notamment. Et ce n'est que très petit à petit, effectivement, qu'on en est arrivé à avoir cette croyance que le plastique est un élément indispensable à l'asepsie et donc à la sécurité des soins. Et tout le système va avec, puisque c'est inscrit dans nos normes d'accréditation. Les hôpitaux doivent maintenant être accrédités. Ça implique que nous pouvons démontrer que nous utilisons un certain nombre de règles d'asepsie, et plus personne n'aurait imaginé, effectivement, qu'on pourrait restériliser du matériel, alors qu'en fait, il y a moyen de faire des soins de très bonne qualité avec du matériel réutilisable. En tout cas, bon, peut-être pas des cycles de 100 fois parce que les lames s'émoussent, etc. Mais effectivement, il y a un gros travail à faire là, y compris au niveau de l'État qui fixe les normes ou les organismes qui fixent les normes d'accréditation.
Jean-Noël Godin, vous voulez réagir ?
Enfin, je pense que c'est le problème de l'obsolescence programmée de pas mal de dispositifs ou de matériel, et donc c'est un réel problème, parce qu'en même temps que cette obsolescence programmée par les firmes, il y a à côté de ça notre dieu aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Et donc plus personne n'ose rien faire, parce que tu faisais sourire tout à l'heure avec la DIA sur les cataractes en Inde. J'imagine quand même qu'elle était prise avant Covid, mais je pense qu'aujourd'hui, ça me semble difficile d'avoir dans une grande salle des tables les unes à côté des autres et des patients qui attendent en rang en attendant d'être opérés. Mais donc voilà, donc c'est tout un système de nouveau qui est agencé par l'industrie au sens large du terme. Et donc, comme il y a ce principe de précaution, sans doute qu'on pourrait faire beaucoup mieux dans le recyclage qu'on ne le fait aujourd'hui, mais plus personne n'ose le faire parce que ce n'est pas politiquement correct. Voilà. Mais toutes les dérives, elles sont là. Il suffit d'aller voir ce reportage, je pense qu'il passera en Belgique bientôt, mais en tout cas hier à la télévision française, sur les dérives des maisons de repos commerciales en France, Orpea. Et donc, le leitmotiv, c'est sortir la santé de l'argent et sortir la santé du commercial. Mais pour ça, il faut une volonté politique qui n'existe pas, ni en Belgique, ni en Europe.
François Peur, peut-être sur One Health aussi, sur lequel on vous a moins entendu.
Enfin, quand je dis vous, c'est tous les trois. Médical, je l'ai dit, hein, et je crois effectivement que c'est une des grandes tâches aveugles, effectivement, de la politique de santé. Mais là, c'est tout. On entame un débat sur la réindustrialisation de l'Europe, parce que c'est toute une chaîne d'approvisionnement qui a été envoyée vers la Chine, et que donc on est pieds et poings liés, et que revenir, c'est pas une question politiquement correcte. Revenir à des instruments réutilisables, tout simplement, ils n'existent plus, ils ne sont plus sur le marché, on les vend plus suffisamment en quantité, et les hôpitaux n'ont pas les moyens de revenir dans des politiques de stérilisation, donc c'est un vrai problème. Sur OneNet, oui, tout à fait, moi je trouve, bon après alors, il y a l'émiettement des compétences qui fait que, mais je trouve que l'idée qui a été de joindre le SPF environnement et le SPF santé publique était une idée novatrice, elle date pas d'hier, c'était vraiment une idée fondamentale, et c'est un ministère, enfin c'est un SPF qui produit d'excellentes choses en termes d'études, de prospectives, et qui au niveau européen a une réputation d'excellence en Belgique, d'excellence en Europe par rapport à cette conjonction entre environnement et santé. Et ce qui est dommage, c'est ce qu'on a réussi à faire au niveau fédéral, on ne le fait pas au niveau régional, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus cloisonné que les administrations de santé et d'environnement au niveau de la Wallonie et de Bruxelles. Donc c'est un peu dommage aussi de ne pas mener cette réflexion de manière plus profonde, parce que oui, je pense que One Health s'impose maintenant. Je crois qu'il n'est plus possible maintenant de penser un système de santé sans intégrer cette dimension. Je crois qu'on a enfin peut-être compris notre rapport à la biodiversité et l'imbrication totale de la santé animale et de la santé humaine. Bon, ce n'est pas faute d'alerte, hein, je veux dire, il suffit de revenir à Creutzfeldt-Jakob et d'autres éléments précédents. On a quand même eu quelques signaux d'alerte. Si maintenant on ne sait pas prendre celui-ci comme vraiment un signal important, c'est vraiment désespéré de tout.
À propos du concept One Health, de mémoire, au départ, ça implique aussi dans le concept au départ au niveau mondial, l'agriculture. Alors pourquoi pas se fusionner le SPF Santé avec le SPF Agriculture ?
Oui, parce que justement...
parce que les deux sont très liés.
C'est quelque chose qu'on oublie très souvent et qui, dans la discussion sur la qualité de l'air, disparaît complètement quand on parle. On s'attaque à la voiture, on dit la voiture c'est pas bien, etc. Une des principales, c'est pas la principale cause de qualité, dégradation de qualité de l'air, c'est l'agriculture, hein, c'est la production, c'est notamment l'azote, les engrais, etc. Et à Bruxelles, une grosse série de gros... Ben, les principaux pics de pollution de l'air à Bruxelles, c'est lié à l'agriculture flamand. Donc, il faut vraiment faire attention et effectivement intégrer. Non, mais voilà, c'est comme ça.
Ok. On va continuer ici.
Oui, donc moi je travaille comme médecin généraliste et comme conseillère santé pour Écolo et Groen au Parlement fédéral. Et je constate ce que vous dites, il y a un décalage terrible entre le One Health et puis ce qu'on fait dans la Commission Santé fédérale, c'est-à-dire c'est de la prévention, ça ne nous regarde pas. Et systématiquement, c'est renvoyé aux entités fédérées, vu que la prévention, ce n'est pas du fédéral, quoi. Et je me demande, mais comment est-ce qu'on peut faire dans la... Enfin, c'est plutôt pour Jean-Noël qui connaît bien ça... Dans les réformes institutionnelles qui se préparent, la réforme de l'État qui se prépare, j'ai pas l'impression que c'est entendu et que ça va venir sur la table de renationaliser la prévention, parce que c'est là qu'il y aurait le plus de moyens, et que du coup ce paradoxe de One Health avec un système qui est divisé et que finalement la prévention se fait reléguer là où il y a le moins de budget, ben on n'arrivera jamais à atteindre cet objectif-là. Et je me demande si est-ce qu'il faut créer un centre d'excellence comme à Londres ou dans les pays nordiques, en Belgique, pour arriver à faire un lobby suffisant pour que cette question-là soit entendue. Enfin, je ne sais pas. Je pose cette question.
Merci. Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Parce que j'ai effectivement donné un exposé devant la commission des réformes institutionnelles à la Chambre au Sénat il y a quelques semaines. Et donc, ma position personnelle, pour avoir participé à la dernière réforme institutionnelle de 2011, c'est de tout remettre sous le même chapeau. Et donc, comme effectivement, politiquement, c'est impensable de refédéraliser les soins de santé, pour moi, mais je parle à titre personnel, la solution, c'est de régionaliser toute l'organisation, mais de garder un financement fédéral et surtout une solidarité au niveau du pays, de telle manière qu'il n'y ait pas une médecine à deux vitesses et il n'y ait pas avantage à habiter une région plutôt que l'autre pour avoir des meilleurs soins ou des soins moins coûteux, comme c'est le cas en Italie ou en Suisse. Hein. En Italie, votre médicament coûte différemment d'une région à l'autre. En Suisse, même chose, d'un canton à l'autre, et c'est minuscule. Donc ici, il faut bien rester solidaire au niveau fédéral. Mais l'organisation, pour moi, elle doit être régionale et pas communautaire, parce que la structure de la population bruxelloise est complètement différente de la structure de la population et wallonne et flamande. Et maintenant, il faut voir si ça passe la rampe ou pas, et s'il y aura d'abord une réforme institutionnelle ou pas, c'est encore un autre débat.
Peut-être réagir sur cette question-là, François Perle ou Anne Berquin ? Régionaliser l'organisation des soins de santé ?
D'abord, sur la prévention, j'ai des sentiments très, très contradictoires. C'est-à-dire que il y a deux choses. Je crois que le fédéral se défausse un peu trop vite sur les régions, parce qu'en fait, le fédéral est compétent pour la prévention individuelle, dans le sens où, dans le cadre de la politique de soins, le fédéral peut mettre en place toute une série d'éléments, notamment dans le financement de la médecine générale, comme les trajets de soins, qui sont des outils de prévention absolument fantastiques. Et ça, c'est pas les communautés. Donc c'est un peu facile, dans le chef du fédéral, d'aller dire « Ah, c'est la faute des communautés, on n'investit pas assez au niveau de la prévention ». En fait, au niveau de la prévention de l'assurance maladie, il y aurait déjà moyen de faire beaucoup plus en matière de prévention. Les mutualités pleurent pour ça. Chaque fois qu'on vient avec ça, on se heurte à un mur des prestataires qui, et je peux comprendre de nouveau, hein, c'est pas une guerre entre mutualités et prestataires, qui en premier lieu, eux pensent non pas en termes de prévention, mais en termes de revalorisation de leurs honoraires. Et en fait, la norme de croissance étant ce qu'elle est, bien, la plupart du temps, l'arbitrage se fait avec un tout petit peu pour la prévention. Le dernier budget contient des éléments intéressants. Je trouve qu'on a négocié un bon budget avec les prestataires, notamment avec des initiatives en matière de prévention. Mais donc, c'est un peu trop rapide de dire que c'est de la faute aux communautés qui n'investissent pas assez dans la prévention. Parce qu'en fait, la prévention communautaire, c'est vraiment soit de la prévention à titre... de la prévention, c'est des grandes campagnes de dépistage et aussi les campagnes collectives. Mais la prévention, c'est aussi et surtout le fait que chaque individu dans ce pays soit à un moment donné affilié auprès d'un médecin généraliste et auprès d'une mutuelle qui, tous les deux, à des niveaux divers, peuvent, pour le médecin généraliste, dans une approche curative et préventive, assurer un suivi médical et, au niveau mutuel, jouer ce rôle de coaching santé. Alors, sur la régionalisation, oui, je suis globalement d'accord avec Jean-Noël, c'est-à-dire que la refédéralisation m'apparaît tout à fait illusoire. Un seul parti qui la défend encore. Tous les autres partis sont plus ou moins résolus. La question, c'est de savoir quand et comment, et c'est effectivement de savoir d'éviter un découpage absolument catastrophique comme celui de la 6e réforme de l'État. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on considère trop souvent en Belgique la régionalisation comme une fin en soi, avec une série de symboles à aller chercher pour les partis politiques. Et là, dans la régionalisation, le patient est tout à fait absent. Donc, oui, allons peut-être que ça serait plus simple si on régionalisait, mais perdons pas de vue quand même que la finalité de la régionalisation devrait servir avant toute chose à améliorer la qualité des soins et la qualité de l'approche patient. Et la 6e réforme de l'État, c'est à peu près l'antithèse de ça. C'est-à-dire qu'on a notamment dans la régionalisation de la première ligne perdu à Bruxelles et en Wallonie probablement 5 à 6 ans par rapport à la Flandre dans la mise en place d'une première ligne performante. Donc ça, c'est vraiment... Il ne faut pas penser que le fait de régionaliser va tout régler. Maintenant, ça me semble assez inéluctable. Et c'est clair que dans les perspectives de l'après-2024, je ne vois pas comment on va échapper à une 7e réforme de l'État dont la santé sera un gros chapitre.
Je vais prendre les questions qui sont de l'autre côté de la salle.
Oui, bonjour. Je suis médecin généraliste, tout fraîchement retraité, mais encore actif. Il y avait un élément, me semble-t-il, dans la surconsommation médicale dont on n'a peut-être pas tout à fait parler, ou peut-être implicitement, c'est ce que les Anglais appellent le disease monitoring. C'est-à-dire, c'est la transformation d'un problème de vie en un problème de santé, avec en général un seuil diagnostic le plus bas possible pour qu'on puisse y inclure un maximum de gens, avec évidemment, à la clé de la part d'un laboratoire pharmaceutique, un traitement médicamenteux ou autre qui vient se greffer dessus, et le ver est dans le fruit, c'est-à-dire le financement des associations de patients qui sont atteints de cette maladie ou de cette pseudo-maladie. Et donc, on en arrive à ce que les médecins soient eux-mêmes incités à prescrire sous la pression, parfois dans certaines pathologies, hein, je ne dis pas que c'est général, sous la pression des associations de patients qui viennent en disant « Comment, docteur, vous ne connaissez pas cette maladie-là » hein, etc., etc. Et donc, on a un système là où on boucle la boucle complètement, où donc l'industrie pharmaceutique utilise les associations de patients pour faire pression sur la prescription des médecins. Donc ça, c'était quand même une remarque que je voulais faire. En français, je crois qu'on dirait la fabrication des maladies. Il y en a comme ça toute une série qui sont bien connues. Et puis ça change, hein, ça change de mode. La deuxième chose, et ce sera la dernière, c'est concernant l'acte intellectuel. Bon, il se fait que mon université m'a laissé la chance d'être le coordinateur de tout ce qui concerne l'enseignement de la relation et de la communication entre médecins et patients pendant maintenant une bonne vingtaine d'années. Et le principal obstacle que j'ai rencontré, que je rencontre toujours encore, c'est ce que j'appellerais la protocolisation des interventions en santé mentale. C'est-à-dire que maintenant, quand je parle avec mon boss du département de médecine générale de la relation médecin-patient, ou soignant-soigné, c'est un peu comme on veut, il dit « Non, ça c'est un terme qui est devenu désuet, il faut parler maintenant de skills, il faut parler de compétences. » Et ces compétences sont évidemment standardisées, objectivables, et donc passent complètement à côté de ce qui fait l'essence de la relation soignante, c'est-à-dire la confiance de quelqu'un, la confiance que quelqu'un met dans une autre personne dont il suppose, pour toutes sortes de raisons, mais souvent aussi des raisons très subjectives, que cette personne-là est digne de confiance pour prendre sa santé en charge. Ce que la protocolisation standardisée des soins de santé mentale ou psychique ne prend absolument pas en compte. Et c'est un vrai combat permanent pour aider les jeunes médecins à faire émerger leur propre individualité de soignant, hein, et non pas quelque chose comme ça d'un peu plaqué, hein, où on apprend à dire bonjour et à structurer le début de la consultation, puis à ne pas perdre de temps, à la terminer convenablement en disant « avez-vous encore des questions ?» etc., etc. Ce qui sonne faux, mais d'un bout à l'autre, hein, et on passe à côté de ce qui se passe réellement de plus implicite entre un patient et son soignant.
Oui, Jean-Noël
Oui, Godin. Je vais répondre, parce que c'est une question qui me touche beaucoup, parce que c'est un sujet important, effectivement, dans l'approche de la médecine générale, en tout cas dans la formation telle qu'on m'en parle, puisque moi je ne suis pas médecin, l'aspect santé mentale n'a sans doute pas été assez prégnant dans les dernières années au niveau de la formation. Et c'est très important parce que le patient exprime souvent quelque chose directement qui n'est pas la vraie raison pour laquelle il vient chez son médecin. Et alors, il y avait peut-être une différence d'approche entre le côté nord et le côté sud. Et je me souviens, parce que dans le cadre de la planification de l'offre médicale, on discutait du temps moyen que le généraliste devait consacrer à son patient. Et les Flamands disaient toujours, mais un quart d'heure, c'est largement suffisant. Et les francophones disaient, non, il faut parfois beaucoup plus. Alors, il y a d'abord la question de l'environnement socio-économique du patient, qui évidemment prend beaucoup plus de temps si le médecin veut appréhender tout ce qui tourne autour de ce patient avant de découvrir de quoi il souffre réellement. Mais il y a aussi le fait, et ça m'a été dit par des médecins flamands, que le caractère germain par rapport au caractère latin fait que dans une consultation de médecin généraliste flamand, généralement, sans jeu de mots, le patient exprime beaucoup plus vite la véritable raison pour laquelle il vient. Tandis que le patient francophone, eh bien, très souvent, il faut, à travers un entretien un peu plus long, déceler que derrière, il y a un problème de santé mentale, d'alcoolisme ou d'autres choses encore. Et donc, ce qui explique qu'une consultation peut durer parfois très très longtemps. Et ce n'est absolument pas rémunéré comme ça devrait l'être aujourd'hui, effectivement.
Notre réaction ?
Ouais. Sur le disease monitoring, effectivement, c'est un problème. Bon, on s'écarte vraiment du sujet du soir, et en fait, non. Parce que je crois que c'est effectivement terriblement révélateur de la manière dont la médecine a été reléguée au traitement de toute une série de problèmes sociaux. Et c'est la médicalisation de problèmes sociaux, d'où, et ça vous avez tout à fait raison de le souligner, dont l'industrie a souvent joué un rôle. Et je reprends l'action de la crise des opioïdes, c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a greffé sur des souffrances objectives liées à la douleur, hein, aux douleurs chroniques, on a fabriqué des maladies. C'est l'industrie a fabriqué des maladies, des seuils de douleur. Cette histoire est vraiment passionnante. Et c'est à peu près, ça fait froid dans le dos, quoi. Mais l'industrie pharmaceutique a vraiment fabriqué une maladie avec des différents seuils de douleur. Pourquoi ? Pour prescrire davantage de doses de médicaments, pour rendre les gens complètement dépendants à ces médicaments. Alors après, il y a des cas simples comme ça, puis il y a des cas très complexes, comme celui de la fibromyalgie, qui est un débat sans fin. Chaque fois que je fais un débat sur la fibromyalgie, une fois sur deux, une fois sur deux, je ressors convaincu que ça existe, et une fois sur deux, je ressors Et donc, ça montre toute la complexité. C'est vraiment toute la complexité de cette maladie, mais avec aussi un autisme, j'aime pas le terme, c'est du validisme, je veux pas dire ça, mais une fermeture d'esprit de la société par rapport aux souffrances des patients souffrant de fibromyalgie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose de très très diffus au niveau des syndromes, la difficulté les diagnostics différentiels, la difficulté de diagnostiquer, la difficulté de traitement et l'absence de connaissance de cette maladie. Et des éléments objectifs d'evidence-based medicine de dire oui, mais c'est quand même très compliqué d'un point de vue médical d'asseoir une fois pour toutes qu'il s'agit d'une maladie au sens où on l'entend. Et puis à côté de ça, il y a toute la souffrance sociale qu'on refuse de regarder et de se demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'arrêtent de travailler un an, deux ans, trois ans parce qu'ils ont mal. Et il faut peut-être revenir à la source du problème, c'est-à-dire au mal-être. Et là, effectivement, on rentre dans toute une série de médicalisations de problèmes sociaux. Je pense que par rapport à des problèmes de type environnementaux, je pense que la composante environnementale, là, va jouer très fort aussi. Parce que, notamment, une partie des problèmes, de ces problèmes sociaux sont liés aux questions d'habitat, de transport, de travail, de longs déplacements de travail vers le domicile, etc. Et que donc ça montre bien toute l'imbrication de la santé dans toute une série d'autres grandes problématiques globales qu'on prend trop souvent via, et là c'est la facilité, on a trouvé un nom à une maladie qui est une maladie de société et on va essayer de prendre ça par le biais de cette maladie. Or, je pense que le problème doit être pris de manière beaucoup plus large.
Je vais encore prendre 3 questions du public. Ah, 4 du coup, parce qu'il y a une personne qui vient de se signaler. Bon, ce sera les 4 dernières interventions. Je vais les prendre à la suite. J'espère que ça ira pour les répondants. Comme ça, on clôture doucement la séance. Et puis, il y a une petite question qui m'a été posée par mail. Donc, ce ne sera pas tout à fait les dernières questions, mais je clôturerai par la question qui a été posée par mail par une personne qui vient du Luxembourg et qui n'a pas pu se déplacer jusqu'ici. Voilà. Patrick Duprier.
Merci Sophie et merci à tous les 3 pour vos interventions. Je pense que il y a, j'espère, une des leçons possibles de cette crise, une des conséquences possibles de la crise sanitaire que nous traversons, qui sera de vraiment durablement mettre la santé au cœur des préoccupations et des politiques, peut-être même la santé, le bien-être, comme outil de structuration des politiques et de, je dirais même presque, de réenchantement de notre démocratie. Il y a en tout cas plein de pistes et d'horizons de changement que vous avez évoqués et d'autres qui montrent qu'il y a, un travail enthousiasmant et important à faire. Après, il y a comment ? Et j'ai deux remarques, questions par rapport à ça. Une première qui est que, alors peut-être j'ai un gros biais de perception, mais une série de choses que vous avez dites sur médicalisation, intérêt de la première ligne, paiement au forfait, diminution de la surconsommation d'actes, etc., peut-être quelques autres. Moi, j'ai l'impression d'entendre ça depuis des années comme quelque chose d'assez évident et d'assez partagé. Alors, c'est peut-être pas tant le cas que ça, mais c'est l'impression que j'ai. Et pourtant, ça ne bouge guère, on va dire comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème, François l'a évoqué à un moment donné, de perception politique ou d'option politique et que ce consensus n'existe pas? Ou est-ce qu'il y a un vrai problème d'impuissance politique, en fait, qui a été évoqué par rapport au poids de l'industrie pharmaceutique, peut-être par rapport à d'autres choses, et que fondamentalement, même en étant plus ou moins d'accord sur un certain nombre de constats, il y a une forme d'incapacité à agir concrètement sur ces dynamiques par rapport au système de soins de santé, ce qui pourrait être évidemment relativement inquiétant. Ceci étant, je pense que le travail de conviction, de persuasion, de pédagogie, par exemple, que Anne fait avec cette étude, ça contribue à créer des conditions de changement. Ma deuxième question, c'est par rapport à la fragilité. On a peu évoqué la fragilité du système de soins que Anne Berquin décrit aussi, au regard des crises en cours ou à venir. C'est pas seulement il faut se préparer au dérèglement climatique, aux prochaines pandémies, etc. C'est aussi, par exemple, les chocs qui peuvent arriver de façon très ponctuelle. On a vu avec l'arrivée du Covid comment certaines choses ont pu se réadapter, parfois très vite, incroyablement vite. Des choses qui étaient en rade depuis des années, Céline Nieuweneuil s'en parle fréquemment, plein de choses étaient bloquées, et puis tout à coup, en 2 semaines, on a réussi à les changer. Je pense à des chocs comme des sécheresses prolongées, des canicules prolongées, ou le manque d'eau, etc. Des ruptures d'approvisionnement fortes. Alors pour des raisons climatiques, mais ça peut être aussi, hein, je sais pas moi, une grève des dockers à Amsterdam ou à Anvers pendant des semaines. Que se passe-t-il pour le système? Et l'intérêt peut-être de cette question-là, c'est existe-t-il des plans catastrophes en fait dans le système, du système en général, par hôpital plus largement, qui obligent à cette créativité? Parce que là, on doit être économe, on doit trouver des solutions, et cette créativité-là, en fait, elle sera utile aussi dans la durée pour affronter les crises qui viennent.
Merci. Comme j'ai dit, je prends plusieurs questions à la fois. Notez bien.
Pour rebondir sur ce qui a été dit, sur ce qui se passe à la Commission Santé, à la Chambre, comment combattre cette séparation abusive entre curatif et préventif? Tout médecin qui fait du bon curatif a aussi une action préventive. Il doit prévenir d'éventuelles complications s'il n'y avait pas eu de soins ou de mauvais soins. Et quand on fait de la bonne prévention, on soigne aussi des mal-être dans la société. Et donc, cette séparation abusive, vous comptez autant de francs pour ceci, autant de francs, là, il y a conceptuellement des erreurs. Vous l'avez déjà évoqué. Et je pense qu'on doit voir comment on va combattre ça. Hein, pour ne pas lancer des faux discours se développer, avec toutes les conséquences, alors funestes qu'ils peuvent avoir. Voilà.
Bonjour. Déjà, merci beaucoup. J'ai vraiment adoré la présentation et les interventions. Moi, j'ai une question. Il y a une partie qui m'a fort touchée. C'était de la partie où on a parlé des antidépresseurs et pourquoi est-ce qu'on ne prescrirait pas une balade en forêt plutôt qu'un antidépresseur. Et ma question, ça va être qui est censé s'occuper de médiatiser le fait qu'il faudrait prescrire des balades en forêt. Je demande ça parce que moi, je suis médecin généraliste, je travaille chez Inter Environnement Wallonie et à la SSMG. Et alors nous, on organise des formations pour parler de santé environnement aux médecins généralistes, on fait ça à l'hôpital, mais peut-être qu'on touche une centaine de médecins généralistes par an, ou une centaine de médecins, ouais, en gros, par an. Moi, je le fais parce que j'adore ça. Mais je me demande si vraiment c'est notre rôle, si c'est nous, en tant que petite association, si c'est à nous de faire ça, et je me demande qui... Enfin, je sais qu'il y a des études, les mutualités, par contre, font un super boulot absolument honorable là-dessus. Il y a des études en Flandre qui sont super, mais comment est-ce qu'on fait et qui doit s'occuper que ça percole enfin chez les médecins et que les pratiques changent réellement dans la thérapeutique, dans le préventif? Mais comment est-ce qu'on change les pratiques du médecin et quel organisme est censé s'occuper de ça en Belgique que vous pourriez identifier?
Bonjour. Bon, moi, je ne suis pas médecin, mais je travaille en collaboration avec Sarah. Donc, en fait, je vais compléter parce qu'elle a déjà entamé une partie de ce que, de ce que je voulais dire. On avait parlé des plastiques tout à l'heure. Et du coup, je me posais la question, et vous avez, vous, Anne, parlé aussi des soins qui pouvaient provoquer plus de dégâts que... Et donc, en fait, il y a aussi toute cette question des plastiques et de tous ces produits, tous ces médicaments qui sont des perturbateurs endocriniens. Les mutuelles ont organisé, voilà, je fais vraiment écho à ce que Sarah a dit, les mutuelles ont organisé il y a quelques mois une conférence sur les perturbateurs endocriniens qui sont effectivement responsables d'un certain nombre de maladies chroniques. Et donc je voulais savoir un petit peu quelle était votre réflexion par rapport à ça.
Merci beaucoup. Je laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez puisqu'il y a plusieurs questions qui ont été posées en même temps et qui me paraissent toutes pertinentes. Jean-Noël ?
Oui, moi je vais répondre en tout cas à deux questions. La question de Patrick Dupri à sa première question. Pour moi, il y a une explication très simple. On parle effectivement, enfin, je suis dans le secteur depuis 30 ans.
Plus près du micro.
Je suis dans le secteur depuis 30 ans et toutes ces réformes, échelonnements, forfaits, etc. J'ai l'impression moi-même que rien n'a bougé. Alors, je vois au moins une explication. C'est que dans le budget de l'INAMI, il y a en fait trois grands consommateurs que sont les hôpitaux, le pharma et les médecins. Et voilà, c'est un fait, comme ça je ne conteste pas, mais les hôpitaux et le pharma, c'est beaucoup d'emplois. Et j'ai assisté, parce que j'ai travaillé également comme expert dans des cabinets ministériels, j'ai assisté à des cairns où on était prêt à décider d'économies substantielles dans les hôpitaux. Et puis, à un moment donné, un ministre dit « Ah, mais il est situé où ?»« Ah, mais non, pas là, ça c'est chez moi. » Et puis voilà, et c'est comme ça que ça marche. Industrie, ouais. Pharma, même chose. Alors, je voudrais aussi répondre à la question de Sarah, donc voilà, oui, que je ne connais pas, malgré son masque. Voilà, mais justement, je parlais avec Anne tout à l'heure, voilà, je parlais de quelqu'un que je connais bien et qui, suite à un traitement oncologique, l'hôpital où elle est prise en charge, cette personne, on lui propose des tas de choses, dont de la marche nordique. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas remboursé, mais c'est pris en charge par un hôpital et c'est proposé. Et effectivement, ça fait un bien fou au moral et ça coûte 10 fois moins cher qu'un médicament parce que ça coûte pratiquement rien sauf l'équipement. Mais ça, il faut le développer. Et moi, j'ai aussi une proposition. J'avais à l'époque, et c'était plutôt en matière de médicaments, lorsqu'on a réformé le métier des pharmaciens, j'avais évoqué l'idée de leur donner un honoraire pour le cas où ils ne vendaient pas de médicaments. Voilà, ça a fait long feu, mais je pense qu'on pourrait également proposer un honoraire aux médecins qui proposent une alternative à un soin classique qui n'est pas indispensable et qui sera en général bien meilleur pour la santé mentale du patient.
J'ai un collègue orthopédiste, une exception dans le métier, qui dit « Nous, on devrait être payés uniquement quand on n'opère pas ». Voilà. Si je peux me permettre de rebondir sur comment changer les pratiques, je pense qu'il y a des études qui montrent que quand il y a 10 ou 20 ans d'écart entre les découvertes scientifiques et les modifications de la pratique, c'est un problème majeur. Je pense que c'est notre problème à tous, en fait. Dans l'enseignement, pour ce qui me concerne en tout cas, dans la communication, dans les congrès, dans un peu partout, c'est de faire passer l'information le plus vite possible. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un financement adéquat de ce type d'approche. Effectivement, les balades en marche nordique dans notre service, c'est pas remboursable. Et donc là, on fait payer un forfait au patient. Et comme on n'ose pas lui faire payer trop, on fait payer 6 ou 8 euros, je crois, par patient, ce qui est difficilement rentable. Il ne faut pas oublier l'intérêt aussi des kinés par rapport à ça, qui ont, je pense, de plus en plus, qui sont sensibilisés à ces questions-là et à l'intérêt de promouvoir l'activité physique et finalement de passer moins de temps à masser, plus de temps à expliquer, motiver, encourager, etc. Et donc, d'où l'importance des partenariats en première ligne avec les autres acteurs de santé du même quartier, en fait.
François Perrin.
Beaucoup de questions.
Oui.
Les antidépresseurs, d'abord, moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper de cible. Les antidépresseurs sont des produits fantastiques. Enfin, c'est une innovation médicale fantastique qui est venue soigner une vraie maladie. Pendant des décennies, on a justement démédicalisé alors qu'elle devait être médicalisée. Et je crois que dans beaucoup, enfin, je ne suis pas médecin, aucune personne ne me contredira, mais je dirais que dans beaucoup de situations de dépression, les antidépresseurs sont à un moment donné un passage obligé. Le problème, de nouveau, c'est l'usage qui en a été fait, c'est-à-dire que en termes de qualité de la prescription, c'est quelque chose qu'on vérifie pas mal dans les mutualités. On se rend compte que, par exemple, beaucoup d'antidépresseurs, il fut un temps où certains antidépresseurs étaient, prescrits comme somnifères parce que remboursés, alors que les somnifères ne l'étaient pas. Et donc, on en revient vraiment à la question de la qualité de la prescription. Beaucoup tient à la qualité de la prescription. Et le problème, c'est aussi toute la dépendance par rapport à toutes ces substances. Beaucoup plus que les antidépresseurs, la dépendance aux benzodiazépines, comme le Xanax par exemple, le plus connu d'entre eux, est un véritable problème de santé mentale, et c'est encore une médicalisation du problème, enfin de problèmes, souvent de problèmes sociaux, d'angoisses sociales qui sont pas des angoisses dépressives, mais des angoisses sociales. Et je dirais que là, qui est responsable? Moi, je pense que les médecins sont en grande partie doivent davantage se prendre en main. Moi, j'ai vu en 20 ans l'évolution de la CCMG, c'est fantastique. Moi, quand je suis arrivé dans le secteur de la santé, les médecins généralistes n'écoutaient pas la Société Scientifique de Médecine Générale, parce que on parle d'acronyme, etc. Et il y a 20 ans, en fait, les seules voix qu'on entendait dans le milieu médical, c'était les syndicats médicaux, qui sont fondamentaux. C'est nos partenaires préférés, nos meilleurs amis ou ennemis, mais souvent nos meilleurs amis. Mais il fallait à côté, et ça, il y a peu en Belgique, il faut à côté un empowerment de société scientifique. Il faut donner des moyens aux sociétés scientifiques, pour qu'elles puissent vraiment développer l'evidence-based et donner des messages d'evidence-based. Et les généralistes, a fortiori quand ils travaillent seuls, j'avais fait toute une étude là-dessus au début des années 2000, notamment dans le domaine de la santé mentale. On lâche des médecins généralistes à panne formés avec très très peu de formation dans la santé mentale à devoir traiter en première ligne des problèmes de santé mentale qui doivent affronter, non seulement parce que ils sont en première ligne, mais aussi parce que derrière il n'y a pas assez de psychiatres, que les psychiatres en ambulatoire peuvent se permettre de sélectionner leurs patients, et que donc effectivement les médecins généralistes sont en première ligne. Donc c'est vraiment le cas des antidépresseurs, je trouve, permet d'expliquer toutes les failles et toutes les lacunes au niveau du système de santé. Je rebondis sur la question sur la prévention, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le problème de la prévention, effectivement, quand on parle de la prévention en Belgique, c'est toujours une approche institutionnelle de dire « Ah oui, mais ça ne marche pas parce que ce sont les communautés, ce que j'ai dit tout à l'heure. » Non, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas de conception de politique de prévention. C'est-à-dire que la prévention, ce n'est pas un problème institutionnel, c'est un maillage qui part du médecin généraliste, mais avec toute une série d'autres intervenants, mais qui sont connectés par le médecin généraliste. La prévention, c'est pas mettre deux affiches dans une école au lieu d'une. c'est revaloriser la médecine scolaire, par exemple. C'est faire en sorte que la médecine du travail soit davantage revalorisée. C'est que les médecins conseils, je veux dire, on travaille, on a des médecins conseils. Il y a à peine 270 médecins conseils maintenant en Belgique pour traiter des centaines de milliers de consultations d'incapacité de travail. C'est réinvestir dans toutes ces professions médicales qui sont tout à fait sous-estimées, sous-évaluées, qui sont fondamentales. Et quand on regarde vers les Pays-Bas, là, moi, j'en démords pas. Il y a alors, sur le plan de l'assurance maladie, c'est un système horrible parce que l'assurance maladie a été privatisée. Mais sur le plan de l'organisation des soins, il n'y a rien à faire. Non seulement ils ont. Pourquoi est-ce qu'ils ont moins de lits d'hôpitaux? Parce qu'ils ont deux fois plus d'infirmières par lit d'hôpitaux aux Pays-Bas et qu'ils ont beaucoup plus de médecins généralistes par habitant que ce qu'on a. Et surtout, et c'est un gros truc, les médecins généralistes qui n'ont pas de surcharge administrative. Pourquoi? Parce que à côté de leur pratique, les médecins généralistes reçoivent beaucoup d'aides de type administratif et ne sont pas réduits à devoir non seulement travailler à l'acte, c'est-à-dire parce qu'effectivement, si un médecin généraliste veut faire une consultation d'une heure, c'est 27 euros. S'il veut faire une consultation de 5 minutes, c'est 27 euros aussi. Donc, un système productiviste à l'acte et avec aussi un véritable soutien des médecins généralistes. Et je crois que toute la soutenabilité du système va dépendre de notre capacité à, et c'est là, finalement, on finit par se rejoindre, à sortir vers, effectivement, une déshospitalisation, un déshospitalisationcentrisme de la santé en Belgique et revenir vraiment vers des fondamentaux de santé publique où je pense qu'on pourra provoquer une réaction en chaîne jusqu'à créer des cercles vertueux au niveau de l'impact environnemental de la santé.
On peut l'espérer, ça me permet d'aller vers la fin, la toute dernière question. Alors il y en a une qui la précède. C'est est-ce que vous avez pu vous pencher sur les spécificités des systèmes de soins de santé en milieu rural, un petit peu l'approcher dans l'étude. Et la dernière question qui nous permettra de bien conclure la soirée, elle est aussi adressée à Anne, c'est qu'est-ce qui permet de considérer, d'après vous, qu'un système de soins de santé est durable? Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un système de soins de santé durable?
D'abord, pour la question de la ruralité, c'est une question que je ne me suis pas posée. Ça me fait penser à la réflexion d'un stagiaire qui me disait « Je suis contente, je vais aller faire de la médecine générale en milieu rural. » Et là, on fait de tout. Parce qu'on est tout seul et donc je vais apprendre énormément parce qu'on doit faire de tout. Voilà. Mais je n'en sais pas plus. Mais probablement que, de nouveau, le médecin généraliste en milieu rural, il est beaucoup plus autonome et donc forcément moins consommateur de techniques, etc. L'important, c'est d'avoir le feeling pour repérer quand il faut référer le patient ailleurs. Et l'autre question, c'était...
Qu'est-ce qui permet de considérer qu'un système de soins de santé est durable? Ce qui me paraît une excellente conclusion à la soirée.
Oui, tout à fait. C'est compliqué sans tout refaire. Je pense que c'est un système qui a un impact environnemental qui est acceptable par rapport à la valeur qu'il apporte, qui respecte les patients, les humains, les patients, soignants et la société, et qui respecte aussi la santé globale et donc l'environnement.
Merci pour ce mot de conclusion. Je vous remercie toutes et tous d'être venus. Et pour votre participation à travers votre question et votre écoute attentive.